This is a journey into sound.
Minuit 10.
Bonsoir Berthe Salego.
Bonsoir.
Bonsoir Jocelyne Kello.
Bonsoir.
Bonsoir Emmanuel Rébus.
Bonsoir.
Jusqu'au 23 octobre, donc, on peut voir à la Maison Populaire de Montreuil l'exposition Écume de l'espace-temps, enfin titre générique sur toute l'année. Vos deux pièces d'art numérique sont exposées. La vôtre, Emmanuel Rébus, s'intitule Pendule autopoétique et la vôtre, Berthe Salego, s'appelle Sky Project. Alors, vous n'êtes pas des jeunes artistes d'art numérique à vous regarder. En tout cas, vous avez autour d'une quarantaine d'années. Je ne sais pas si votre voix le montre, l'explique, le fait entendre. Vous avez, Emmanuel Rébus, réalisé un projet qui m'a attiré. C'est pas totalement l'actualité, mais vous avez fait chanter des ponts.
Ah oui.
Alors, comment fait-on chanter des ponts?
Donc, il s'agit d'un projet qui s'est développé au moment du festival Mal au Pixel en mai dernier. Donc, c'est un festival, on va dire, d'art numérique aussi, qui avait pour thème l'intervention des artistes dans l'espace public. Et là, je me suis greffé en fait sur un projet d'une artiste australienne qui s'appelle Jodie Rose, dont le travail consiste exclusivement en l'enregistrement des vibrations des ponts suspendus. Elle parcourt le monde à l'aide de petits microphones spécialisés. Elle enregistre les vibrations du métal. Donc, il se trouve que moi, dans mon travail, je m'intéresse aussi aux vibrations, aux phénomènes physiques des grandes structures métalliques. Et elle devait intervenir à Paris. On n'a pas vraiment de pont suspendu. En quelque sorte, j'étais recruté comme instrumentiste sur son projet. Je l'ai aidé à adapter son idée à la passerelle Simone de Beauvoir.
Passerelle Simone de Beauvoir qui est située...
C'est une très belle structure qui entre la...
Vous pouvez parler plus fort.
C'est sympa. En face de la Bibliothèque nationale.
Voilà.
En face de la diptyque.
Voilà, elle joint la Cinémathèque à la Grande Bibliothèque. Et c'est un très bel objet avec une structure en double arche. À l'intérieur de cette arche, il y a des croisillons. Il n'y a pas de résonance vraiment propre, facile à entendre. Mais du fait qu'il y a des croisillons de longueurs différentes, on peut l'utiliser comme une sorte de métallophone géant, en fait. Et donc, on est venu avec plusieurs intervenants taper dessus. Et,
ce qui donne à peu près ça, ce qu'on entend.
Voilà, je ne sais pas comment ça peut passer à l'antenne.
Ça, c'est de la musique.
On entend le bruit du vent et des frottements sur la structure du pont. On a demandé aux passants aussi de nous aider à taper sur le pont. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est les sons, non pas typiquement métalliques comme ce qu'on entend actuellement, mais il y a des sons un peu plus graves, un peu plus profonds, qui sont peut-être difficiles à diffuser, mais que c'est ça qu'on recherchait, en fait, provoquer des vibrations un peu inattendues de cette structure.
C'est vraiment la structure même de la passerelle, en l'occurrence Simone de Beauvoir, qui résonne.
Ah là, oui, c'est en fait, on a installé dessus des petits capteurs qui transforment la vibration du métal en signal électrique et c'est enregistré directement sans aucune tricherie, sans aucun instrument autre que le pont.
Alors d'ailleurs, vous avez reproduit cette expérience aussi sur le canal Saint-Martin.
Voilà.
Le public était un petit peu plus mis à contribution, je crois.
Voilà, donc sur le canal Saint-Martin, les passerelles sont plus anciennes, elles sont fontes, elles résonnent encore moins que la passerelle Simone de Beauvoir. C'était difficile d'avoir une grande palette sonore, mais l'avantage, c'est qu'un dimanche sur le canal Saint-Martin, forcément, au mois de mai, il y a énormément de public. Et donc, on a touché beaucoup de gens qui se sont mis à écouter le pont. La diffusion était faite sur casque. Parce qu'il y avait trop de bruit à l'extérieur. Ce jour-là, il y avait un pique-nique, une fanfare, etc.
Et qu'est-ce qui fait que c'est de l'art numérique?
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, en l'occurrence, moi, je suis un petit peu un imposteur dans cette histoire. Aussi bien pour l'exposition à Montreuil que pour ce projet-là. Il y a
Emmanuel Rébus.
L'aspect numérique au festival Mal au Pixel était le suivant. Il y a eu un concert de pont où l'artiste australienne dont je parlais tout à l'heure, qui a initié tout ce projet, Jodie Rose, était à Singapour sur un pont, un vrai pont suspendu à Singapour. Là, elle enregistrait les vibrations de ce pont. en temps réel. Elle nous les avait streamés par internet et c'était diffusé à main d'œuvre dans la banlieue nord de Paris, dans une salle de spectacle. C'était diffusé de la manière suivante, non pas au travers de haut-parleurs, mais au travers d'une structure métallique que j'avais construite sur la scène et qui était vibrée par des vibreurs. Donc en fonction des vibrations enregistrées à Singapour, les vibrations étaient revibrées dans la salle.
Ah oui, ce qui rendait la chose numérique, c'était qu'elle vous envoyait des sons par système codé, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. C'est que...
Information de la lumière,
oui, internet. Ça, c'est toujours du numérique, alors, Berthe Salego, pour vous.
Oui,
ça, c'est vraiment un imposteur, c'est... votre collègue qui expose dans la même salle.
Un petit peu plus longuement, et Emmanuel s'expliquait très bien, en fait, sur son caractère analogique à la base et empreint de numérique par touche, en fait. Et il est vrai que je travaille un peu plus dans ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui, avec des réseaux interactifs, des bases de données qui sont prises directement sur le public, qui agissent et qui laissent des traces sur l'image. Parce que la mémoire et l'architecture m'intéressent beaucoup, et donc de travailler également avec l'architecture des ordinateurs aujourd'hui via des interfaces de logiciels qui permettent la confrontation du son, d'événements sonores en temps réel, ainsi que les images, alors qui peuvent être prises, enregistrées ou en temps réel, en fait, et qui donnent une matière visible et graphitable, si je puis dire, en direct et à jamais.
C'est pas facile de comprendre, en fait. Vous avez une... je vous regarde, je trouve ça très intéressant, tous ces noms, j'ai du mal à voir à quoi ça peut ressembler. Alors, ça ressemble à quoi?
Ça ressemble, en fait,
à des matières... Sky Project, c'est le nom de votre pièce.
The Sky Project, parce qu'en en vous parlant, j'ai en mémoire, en fait, une autre pièce qui s'appelle Denny Interprétation, qui est un film strip géant qui fait 3,25 m par 325
mètres.
Strip.
Déjà, moi, je m'arrête.
Sur d'écran.
Voilà. C'est basé sur une vidéoprojection très grande, comme ça, et le film a été divisé en interface, en partie, par 8. Et le visiteur se balade avec un joystick, en fait, et sa visitation devient des traces qui sont laissées et qui effacent petit à petit dans le temps, en fait, le film à jamais.
C'est ce qu'on voit en arrivant la première fois qu'on découvre, en fait,
vous verrez le film.
Ce qu'on retrouve, en fait, en fin d'exposition n'est plus du tout la même chose.
Voilà, alors en fin d'exposition sur des années, en l'occurrence, j'estime que peut-être il deviendra un monochrome, donc simplement une lumière vidéo projetée. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'est que ça devient également, alors ça devient une zone de dialogue de mémoire, parce que c'est un film extrêmement connu par Warner Bros. De Kubrick. Donc ça fait travailler la mémoire par rapport à ce qu'on connaît. Le fait de voyager avec la joystick permet également de revoyager dans le film et de faire un défilement filmique comme sur un écran normal. Et puis, éventuellement, d'écrire également avec le joystick et de laisser des messages pour les prochains visiteurs d'expo en exposition.
Jocelyne Collot et Eric Philippe, pour avoir encore plus de précision sur nos deux artistes présents aujourd'hui, peut-être, puisque vous les avez choisis, programmés, qu'est-ce qui différencie fondamentalement les deux travaux entre Emmanuel Rébus et Berthe Salego?
Alors, je vais d'abord parler de ce qui les unit.
D'accord. Oui, c'est une manière de penser.
C'est en fait... L'art numérique, on peut le rapprocher énormément. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui vient de Jean-Noël Montagny et qui est de dire c'est de l'art sensitif. Donc, dire qu'il va toucher la totalité de nos sens. Donc, ce qui va les unir, c'est cette recherche aussi de l'appel, en quelque sorte, à la participation de la personne à l'intérieur de tout ça. Emmanuel, sa grosse différence, c'est qu'il travaille beaucoup sur du low-tech. Donc, c'est des choses qui sont en grosse partie récupérées, qui va remodeler, leur donner une autre forme, une autre sonorité, un autre aspect. Alors que Berthe va plus travailler sur, comme elle insiste beaucoup sur la mémoire et l'architecture, c'est vraiment un petit peu son domaine de prédilection. Et donc, arriver à voir comment le spectateur va, à l'intérieur de tout ça, découvrir aussi sa pensée et et naviguer à l'intérieur de son univers.
Ce qui est surprenant aussi dans le travail de Berthe, c'est cette analogie Berthe, entre cette mémoire et cette architecture de l'ordinateur et du monde et des gens qui le composent. Il y a toujours dans votre travail ces deux pendants comme ça. Oui.
Bah, j'ai eu l'occasion en fait pendant des années de voyager beaucoup au travers du globe.
Oui, Australie, New York, États-Unis, c'est ça qui est écrit notamment.
Voilà. Et par phénomène répétitif, justement, pour travailler la mémoire et la mémoire corporelle également. Et au fil des années, en fait, ça m'est. Je suis arrivée à la notion de la mémoire de l'ordinateur, donc de rentrer de plus en plus à la fois dans la composition de la machine elle-même, et puis aujourd'hui pour en arriver à un projet de Sky Project qui travaille sur les constellations.
À suivre.
Minuit 10 sur France Culture.
Suivant la définition traditionnelle, le langage est d'abord communication. Mais comme y insiste Mounet, tout n'est pas communication. La première distinction fondamentale consiste à bien séparer les phénomènes qui impliquent une intention de communication d'avec ceux qui n'en impliquent aucune. En laissant ses traces dans la neige, le renard ne communique pas avec le chasseur. De plus, toute communication intentionnelle n'est pas un langage au sens étroit du mot. Pour qu'elle le soit, le message qu'elle transmet doit avoir une structure bien précise. Les messages de langage sont constitués par des unités insolables.
Emmanuel Rébus, c'est vous qui avez donné ce son à notre réalisateur Thomas Beau.
Voilà, j'ai fabriqué ce petit morceau spécialement pour ce soir.
Ah oui? Bon, alors faites écouter encore Thomas Beau, ce son qui est spécialement fait pour nous et pour tous les auditeurs de France Culture à minuit 46.
Autrement dit, à l'origine, tout fait de langage nécessite au moins deux interlocuteurs motivés et dont l'intention de communiquer se réalise en des messages qui obéissent, 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 qui obéissent.
Deux interlocuteurs motivés et des messages qui obéissent, c'est ça?
Voilà, donc c'est... Je vais en profiter pour lancer un appel. Donc, ce morceau, il est réalisé à l'aide d'un jouet pour enfants que j'ai modifié, que j'ai ouvert, et j'ai créé au hasard dedans des petits courts-circuits. Ça l'a lancé comme ça sur cette mélodie un peu automatique. Je n'ai vraiment fait aucune intervention.
C'est ce qu'on appelle le circuit bending.
Voilà, j'ai un ami qui propose la traduction française circuitage, que je trouve assez joli.
Qu'est-ce que vous disiez, Eric Philippe,
circuit
ce qu'on appelle
bending.
Circuit bending.
Ouais, c'est vrai que c'est le circuitage en français.
Voilà, on essaye de désigner par ce terme le procédé qui consiste à prendre des objets électroniques pas chers, qu'on trouve souvent dans les poubelles, ou à Emmaüs, ou dans les vide-greniers, etc. C'est souvent des jouets pour enfants, des petits gadgets qui font un bruit insupportable. On les ouvre. Et sans chercher à comprendre le circuit électronique qui est dedans, on teste. C'est vraiment de l'expérimentation au sens de physique, de la science physique. Hein. On teste des petits courts-circuits et on regarde ce que ça produit sur le résultat sonore. Voilà, donc là, c'est ce qui s'est passé ici. Et puis,
concrètement, comment vous avez fait? J'ai pas bien compris. Pour faire ce son? Donc, vous avez ouvert la poubelle d'abord, ensuite vous avez pris.
J'ai trouvé un jouet, probablement celui-là on me l'a donné.
Oui.
On me l'a donné pour que je le. C'est une artiste qui me l'a donné en fait, pour que je lui fabrique un instrument comme ça. Mm-hmm. Je l'ai ouvert, j'ai soudé des fils un peu au hasard dedans en faisant des essais. Ça prend du temps pour avoir un résultat sonore. Et avant de lui rendre, j'ai enregistré cette séquence de 1 minute et 20 secondes. Et dessus, il y a une voix. Hein, vous l'avez remarqué.
J'ai entendu.
Alors cette voix, c'est un autre aspect, un peu la même idée de hasard et de choses un peu détournées. Donc c'est une bande magnétique assez ancienne, un petit bobino que j'ai trouvé. Alors, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais savoir si c'est probablement une femme qui lit un livre, peut-être un livre de sciences humaines. Je ne sais pas. J'aimerais savoir...
Vous l'avez trouvé où, ce bobino?
Voilà, je l'ai trouvé il y a environ 10 ans à Orléans. Voilà.
Dans la rue, comme ça?
Dans la banlieue d'Orléans, oui, dans la rue. Oui.
Voilà les premiers indices. Alors, vous présentez à Montreuil Pendule autopoétique. C'est aussi du lofi, comme vous dites.
Oui, c'est
une... Jocelyne Pellon, vous disiez.
Voilà, ça fait partie de l'imposture. Il n'y a pas vraiment de partie numérique dans cette installation. Il s'agit d'un système un peu à l'ancienne, constitué d'un morceau de jouet en forme de canard, qui est pendu au-dessus d'une sorte de grosse bobine magnétique qui, elle, provient d'un magasin de tuning. C'est un appareil que les gens qui font du tuning sur leur voiture vissent sur le plancher pour faire vibrer la voiture. Bon, ça, je l'ai pas... ça coûte pas cher, mais je l'ai pas modifié, je l'utilise tel quel. Et puis, il y a un petit procédé physique élémentaire qui traduit la vibration donc le mouvement du pendule au-dessus de ce gros électroaimant est un petit peu complexe et il engendre un phénomène sonore en fait dans un petit capteur qui c'est ce qu'on entend dans un casque. Voilà, donc c'est une installation très simple qui fonctionne en principe toute seule. Une mélodie est créée par le mouvement aussi complexe que possible de ce pendule.
Contrairement au travail de Berthe justement, où encore une fois pour le Sky Project, c'est le visiteur qui va justement interagir donc avec l'heure en tant que telle et même entre eux d'ailleurs, ils vont interagir entre eux finalement.
Entre quoi et quoi?
Entre l'œuvre en tant que telle et le visiteur, il y a une interaction, et aussi entre les visiteurs.
Oui, alors oui, avec la Wii en fait. Donc la Wii est l'espace de navigation et porté à la main, puisque c'est un accélérateur de mouvement. Il permet de naviguer dans une constellation qui provient des nighttime views, des visions spatiales de la vie la nuit en fait. Chaque continent est représenté pour le moment et à venir les villes. Donc on se balade dans un peu comme dans les étoiles en fait. On navigue dans les étoiles.
Et avec la manette de la console, oui, de la Wii, Nintendo, exactement. On est bien d'accord. Ouais.
Voilà. Et aussi simple que ça, immersé également dans un son qui est relatif au mouvement, travaillant avec des brainwaves cette fois-ci, pour être au plus près de la vibration matérielle du corps, de la matière.
Et vous êtes plutôt mathématicienne alors pour mettre en place ces dispositifs?
Oui. Alors ça, c'est dans l'écriture de la programmation en fait, d'un certain nombre de logiciels avec lesquels je travaille, effectivement. On travaille sur du code mathématique pour écrire ces rendus d'images.
Vous fait. Inventez des logiciels qui sont aptes à créer des nouveaux dispositifs, c'est ça? Comment, où intervient finalement la patte de l'artiste dans un dispositif comme celui-là? Qu'est-ce qui fait votre différence?
Dans la mise en œuvre, évidemment.
Dans la pensée, surtout.
Dans la pensée. Dans la jonction, en fait. Aussi.
Si je peux juste me permettre, il y a une chose assez particulière aussi au niveau des arts numériques, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'artiste seul dans son atelier, il y a un regroupement des choses. Donc il peut y avoir un artiste qui va travailler avec un programmateur ou, comme disait Emmanuel tout à l'heure, avec un musicien. Donc c'est des choses qui circulent son œuvre. Et l'artiste en lui-même, c'est celui qui va générer cette pensée-là parce que c'est sa problématique et qui va la développer de plus en plus et trouver des liens avec d'autres pour arriver à la concrétiser en quelque sorte. Donc de plus en plus, il y a des artistes qui savent directement écrire des programmes et utilisent des logiciels qui sont déjà plus ou moins existants, mais donc qui peuvent être de plus en plus développés. Comme là, si je peux citer des termes techniques, c'est sur Processing. Donc c'est un logiciel libre à la place et pour lequel chacun peut développer une partie de programme, la remettre au service des autres qui vont reprendre ces parties-là, comme Pure Data ou d'autres de ce type.
Très exactement.
Très exactement ça.
Oui, c'est très exactement. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle les interfaces aujourd'hui, donc qui permettent, donc effectivement, on n'est peut-être plus habitué avec les capteurs sensitifs, des choses à bouger au niveau du corporel, mais ce qu'on appelle interface également, ce sont des logiciels qui ont un frame et dans lequel on vient mettre du code à l'intérieur, et ce code est formateur de musique, d'images, et on peut faire bouger le tout en changeant parfois deux ou trois lettres, tout simplement.
Oui, c'est facile, Sophie Robert.
Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très enfantin dans ce que vous nous décrivez, mm-hmm. avec les histoires de capteurs, projections dans les étoiles. Est-ce qu'il y a des enfants ou des jeunes, des tout jeunes, qui s'amusent lors de ces installations?
Très certainement.
Ça arrive,
bien sûr. J'espère pour eux.
Est-ce que vous y avez pensé?
Dédié déjà. La Wii pour moi était dédiée. Un enfant serait beaucoup plus facilement manipulé une Wii que deux trois générations bien avant.
En tout cas, la console de jeu, c'est un point commun que vous avez avec Emmanuel, qui quand même fait partie d'un Game Boys Band, qui est donc une sorte de boys band, mais qui fonctionne donc avec des Game Boy, donc des petites consoles portables. C'est toujours dans cet esprit de circuit bending et donc de circuitage.
Moi, je me suis mis à la Game Boy pour faire de la musique. Quand il y a environ une dizaine d'années, un jeune Allemand a développé une cartouche qui permet de piloter les phénomènes de création sonore à l'intérieur des vieilles Game Boy grises, celles qu'on trouve pour 5 euros dans les villes greniers. Voilà, donc ces vieux objets, ces vieux jouets ont un son tout à fait particulier. Et donc, moi, je me suis cantonné à cet aspect un peu old school de la Game Boy. Mais il faut savoir que la musique comme ça sur console de jeu a pris un essor considérable, même dans le registre de la musique pop. Il y a tout un mouvement qu'on appelle le mouvement 8-bit, qui sont peut-être moins expérimentaux que ce qu'on fait, mais qui ont, je crois, un certain public, un grand succès.
On organise des concerts.
Des concerts, donc à base de Game Boy, mais aussi de vieux Atari. Donc c'est tout l'esprit des vieux jeux vidéo avec des gros pixels. Voilà, il faut imaginer le pendant musical du Pac-Man ou des choses comme ça.
Dans Technicart, cette semaine, ce mois, il y a une question qui est posée à un jury parce qu'il va y avoir un prix à la FIAC. Et la question, c'est comment faire une œuvre d'art numérique qui cartonne? Alors, qu'est-ce que vous répondriez, vous, Jocelyne Collot? Moi, j'ai des réponses de quelques commissaires que je dirai après.
C'est vrai.
Oui.
Alors, je me suis jamais posé la question de faire une œuvre d'art qui cartonne, en fait.
Une œuvre d'art numérique.
D'œuvre d'art numérique qui cartonne, parce que je le place plus de comment le public peut se l'approprier, comment il peut y accéder, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va revenir et qu'il va se poser encore d'autres questions, qu'il va y prendre plaisir, en fait. Donc, je voudrais plutôt le questionnement de comment faire une œuvre d'art numérique qui nous fasse plaisir à tous.
Il y a notamment une réponse d'un journaliste qui s'appelle Emmanuel Fessy qui dit pas trop d'effets. Éviter.
Oui, d'être l'interface au plus naturel possible, oui, évidemment. C'est un peu comme la technologie d'aujourd'hui qui est en plein les téléphones portables qui emplissent notre vie aujourd'hui. C'est devenu des automatismes, des gestuels. Et c'est de là, les enfants, c'est très intéressant à voir parce qu'ils ont une gestuelle qui est déjà complètement incorporée, en fait. Et donc de travailler ces interfaces le moins technologie apparente possible, si je puis dire, dans les films.
Disons que la technologie se fait oublier, c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante de l'œuvre, donc elle en soi elle est plus intéressante en tant que telle. C'est l'œuvre qui est primordiale parce que le reste fait partie de ce qu'elle va offrir, en fait.
Et puis Martin Bettenau, commissaire général de la FAC, dit ne pas se limiter au support. Au support,
oui, mais les fils, je crois, c'est ça, les supports, les marionnettes. Et donc, le support nous enlève, le fait de ne pas être dans le support nous rapproche du temps et de l'espace-temps, évidemment, par rapport à ces choses-là, qui est le domaine perceptif, dans la continuation de l'art américain des années 80. Et donc perception au-delà de soi, et l'espace s'agrandit, tout comme l'Internet, où on arrive à se projeter en fait sur un réseau de milliers de personnes, à des milliers de kilomètres de distance de tout à chacun, aussi proche soit-il.
Mais c'est ça qui doit être le plus dur pour vous en tant qu'artiste, c'est de finalement de pas montrer le support, ou de faire en sorte qu'on, tout en l'utilisant, on l'oublie.
Oui, c'est un quotidien.
Je crois qu'à un moment donné, c'est la maîtrise du support, en tout cas de ce qu'il permet de faire, est suffisamment présente pour que cette question-là, elle soit simplement comment faire pour aller encore plus loin, et qu'il ne soit pas présente en termes de qu'est-ce que ce support véritablement.
Donc l'exposition est à voir jusqu'au 23.
Jusqu'au 23 octobre.
Avec des conférences également. Et là, vous reveniez d'une conférence assez pointue quand même, rétroaction et aléatoire.
Oui, en fait.
Le chaos.
Oui, une théorie.
C'est vrai que ça peut faire peur, il y a beaucoup de noms comme ça.
Bah, en fait, ça s'inscrit vraiment dans cette idée d'écume de l'espace-temps, qui est un terme assez poétique, qui était donné par les astrophysiciens, en fait, sur les mouvements. Et j'ai fait une petite analogie entre tout ça et le fonctionnement du réseau et le fonctionnement aussi de plus en plus de travail en commun, de mise en de mutualisation, en fait. Bert tout à l'heure parlait du réseau, c'est effectivement, il y a des choses qui naissent à certains endroits, qui circulent, qui vivent, qui disparaissent, qui se remodèlent. Il y a les frontières sont présentes, mais sont parfois différentes. Et parfois même, les frontières physiques vont rentrer à l'intérieur de ces réseaux complètement virtuels.
Très bien, voilà. Merci. Merci à tous. Ce soir, c'était Bert Salego, Jocelyne Coelho, Emmanuel Rébus-Tomabo, Aude Lavigne, Sophie Beaubert, Marie Dalquier, François Rivière, Éric Philippe, Vincent Levotte. Il est 1h10, vous écoutez France Culture, et on se rapproche.
Que la nuit vous apporte à tous calme et tranquillité.